Voilà, j'aimerais terminer le message que j'ai commencé sur l'onction. Hein. L'onction, l'huile d'onction. Donc l'huile qui représente l'onction qui a été manifestée à la fête de la Pentecôte. Hein. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, c'est la fête du don de l'Esprit. Hein. Mais auparavant, et vous savez, il y a une suite dans les idées de Dieu, hein, je crois, on n'en doute pas. Auparavant, cette fête était une fête qui, dans l'Ancien Testament, elle était la fête de la parole. Et elle reste la fête de la parole. On y fêtait, à ce moment-là, le peuple de Dieu fêtait le don de la parole sur le mont Sinaï, où Moïse a reçu les tables de la loi. Hein. Donc c'est quelque chose de très important. Dieu qui parle à son peuple. Et vous savez que cette parole est une parole qui est éternelle, qui ne passera jamais, comme l'a dit Jésus. Donc cette parole et le Saint-Esprit, voilà, ce sont ces deux dons qui sont précieux pour nous. Et vous savez qu'on va rejoindre la famille RNC, on y est déjà, hein, mais voilà, ça va être officialisé. Eh bien, on aime bien cet équilibre entre la parole et le Saint-Esprit. On a besoin des deux de manière équilibrée. Parce que la parole est inspirée par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, il ne peut rien dire d'autre que ce qui est dans la parole. Voyez-vous ? Et c'est comme ça qu'on éprouve les prophéties, hein, éprouver les prophéties. Hein. On a reçu récemment des prophètes et on bénit le Seigneur de ce que ces prophètes nous ont fait du bien. Mais quels que soient les prophètes, aujourd'hui, il faut les éprouver au travers de la parole. Donc la parole et l'Esprit. Ce sont des deux éléments pour lesquels on doit toujours être en équilibre. L'un des sens de la Pentecôte chrétienne, donc, c'est l'esprit qui souffle encore aujourd'hui. Vous savez, il faut se mettre un peu à la place des disciples, mais aussi du peuple de Dieu de l'époque, hein, où quand Jésus est venu, il y a eu un silence pendant 400 ans. Vous imaginez 400 ans ? Pour nous, 400 ans, c'est quoi ? C'est presque la réforme, quoi. Hein, on parle de la réforme, mais voilà, pour nous, c'est très très loin. Pendant 400 ans, Dieu n'a plus parlé. Malachi, donc le dernier prophète de l'Ancien Testament, quand ça s'est arrêté, vous savez, le peuple de Dieu est habitué à ce que Dieu parle. Si vous avez un Dieu qui ne parle pas, c'est comme les idoles muettes de ce monde. Donc, le peuple de Dieu, il avait l'habitude que Dieu parle au travers des prophètes. Et les prophètes se sont exprimés. Et à un moment donné, ça s'est arrêté. Comme une source, tac, qui se tarit. Malachi, il n'y a plus aucune prophétie, plus aucun livre qui parle la part de Dieu. Et j'aime bien parce que Pawson a fait une série d'enseignements, ceux qui le connaissent, David Pawson, en anglais, il a fait un enseignement où il a montré qu'à chaque fois que Dieu s'arrête de parler, ce sont les hommes qui prennent le relais. Et dans cette période de 400 ans, ce sont toutes les sagesses grecques, Socrate, Platon, tout ça, qui ont parlé. Donc la sagesse de ce monde, voyez, pendant le silence de Dieu. Et aujourd'hui, les hommes cherchent la sagesse des hommes, alors que nous avons la sagesse parfaite de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Lui le sage, lui le seul sage, celui qui sait donner la vie éternelle, pas simplement en parler, mais il la donne. Amen. Parce que c'est le don gratuit de Dieu. Voilà, donc nous sommes dans cette période où, voilà, ils ont dit Dieu ne parle plus. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient à la Pentecôte. Et qu'est-ce qu'il fait ? Sarah ? Le don particulier du Saint-Esprit à la Pentecôte. Le parler en langue. Hein ? On vient d'en parler avec Ruben. Ils se mettent à parler en langue. Ce n'est pas des prophéties, ça ? Hello ? Vous êtes réveillés ce matin ? Est-ce que c'est des prophéties ? Est-ce que c'est un acte prophétique, le parler en langue ? Oui. Non, mais sans rien rajouter, oui, c'est la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Mais cette prophétie, elle est donnée par qui ? Par chacun. Bon, vous rappelez pas, il y a des langues de feu sur chaque disciple. Hello ? Je vous réveille là ce matin. C'est très important parce que dans l'Ancien Testament, c'était sur une personne qui avait le Saint-Esprit. C'était Moïse. Moïse, il a été en face du buisson ardent, qui était l'équivalent du feu du Saint-Esprit, hein, parce que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Et ce feu, c'était un buisson avec une personne, un intermédiaire, c'était Moïse, qui a reçu la parole de Dieu, qui a été rempli de la présence de Dieu. Hein. C'est extraordinaire quand vous lisez ce récit. Il y en a qui ont lu qui ont vu le film Les Dix Commandements. C'est bien montré, hein, cette majesté de ce moment. Eh bien, à la Pentecôte, le feu est descendu sur tous. Tous les disciples étaient remplis de feu. Vous voyez, c'est toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, tous nous avons reçu l'Esprit. Nous ne pouvons pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. Alors, dis-le à ton voisin, tu as reçu le Saint-Esprit. Alors je dis ça parce que même si tu ne parles pas en langue, hein, je dis le parler en langue, bien sûr c'est une manifestation. Bon, les assemblées de Dieu, bon, ils en sont revenus un petit peu, mais c'était pour eux le signe initial. Je ne le crois pas parce que parfois il y a des blocages. Hein. Moi je sais que je me suis converti dans une assemblée de Dieu, donc j'étais bien exposé à exprimer le parler en langue. Mais j'ai mis 15 ans à l'exprimer, le parler en langue, parce que je ne voulais pas me lancer dans quelque chose qui était déraisonnable. Moi je suis quelqu'un de raisonnable, vous savez, voilà. Tout doit être bien filtré, tout ça. Et pendant 15 ans, je me suis battu, je suis avancé, j'ai reçu. Voilà. Et c'est venu au bout de 15 ans, simplement dans la louange. Toute la semaine, j'ai loué, le Saint-Esprit est venu et il m'a envahi. Hein. Mais voilà, donc c'est pas. Disons, on n'est pas né de nouveau juste avec le parler en langue. On est né de nouveau quand on est enfant de Dieu. Quand dans notre cœur, on entend ce mot Abba, Père. Quand on peut dire Abba, Père. Tu peux dire Abba, Père. Tu peux dire Papa. Alors je sais que, bon, après, il y a aussi des guérisons qu'il faut recevoir par rapport à ce mot Papa. Hein. Quand on a eu un mauvais Père, parfois c'est difficile. Mais dans tous les cas, on est né de nouveau quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on le ressent, quand on lit la parole. Vous savez, pour moi, et John Wimber nous l'a bien dit, et j'ai bien retenu cette leçon, c'est que dans le domaine charismatique, c'est l'équilibre dont je parlais, entre la parole et le Saint-Esprit. En particulier en tant que responsable, en tant que pasteur, on a besoin d'avoir des repères. Hein. Des repères, bien sûr, il y a le discernement, comme ça, à chaque instant, mais il y a aussi des repères. Il y a des repères très, très clairs. Des repères très clairs pour savoir si une personne... Il s'exprime dans des charismes qui viennent de Dieu ou pas. Et ses repères, c'est quoi? Il y en a quelqu'un qui a les mêmes repères, qui a discerné ça? Comment est-ce que vous jugez une personne? Surtout, enfin, pour un pasteur, c'est important. Un prophète, il vient et il prophétise. S'il vient pas de Dieu, il faut que je l'arrête. Sinon, je suis responsable devant vous. Hein, alors, bon, il y a une façon d'arrêter. Hein. Il faut mettre les formes, mais bon, il faut le faire. Donc, nous, bien sûr, en tant que pasteur, on est obligé d'avoir ces repères. Mais vous, est-ce que vous avez des repères? Laurence, tu as des repères? Pardon? La vérité, c'est un repère. Il y a vérité. Est-ce qu'il y a d'autres repères? Voilà, c'est en accord avec la parole. Et pas seulement l'accord avec la parole, mais les fruits de la parole. John Wimber nous disait, il avait beaucoup, beaucoup de manifestations dans ses rassemblements, il disait quand il y a des manifestations spirituelles, des manifestations de l'esprit, il regardait si la personne, 8 jours, 15 jours après, lisait sa parole. Et là, il savait si ça venait... Vous voyez, des gens qui reçoivent des émotions... forte, hein, moi aussi j'en ai vécu beaucoup, mais si ça ne donne pas le fruit de vouloir lire la parole, de dévorer la parole, on peut avoir des grands doutes sur la réception de cette expérience spirituelle. Et ça rejoint ce qu'on vient de voir. La Pentecôte, c'est la parole et l'esprit. L'esprit et la parole. Amen. Allez, et ça, c'est un critère important. L'amour de la parole. S'il y a l'amour de la parole, vous sentez vraiment que l'Esprit, il confirme ce qu'il est en train de faire. Allô? Quand Pierre a pris la parole, ben, il a cité la parole de Dieu. Il a dit, voilà, ce qui devait arriver est arrivé, et il a annoncé le message du royaume. Quand les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs, eh bien Jésus leur a parlé de la parole et de tout ce qui annonçait sa venue. Vous voyez, le Saint-Esprit confirme ce qui est écrit dans la parole, sinon ça ne vient pas de Dieu. Parlons de l'onction. L'onction. Thoret disait, il est convaincu que l'onction d'huile constitue un acte de consécration et de sanctification. Consacrer, ça veut dire mettre à part pour Dieu. Le rendre sacré. Quelque chose de profane, le rendre sacré. C'est consécration. Car celui qui est oint, cet acte représente une consécration de ses mains pour qu'il travaille pour lui et pour lui seul. De ses pieds pour qu'il marche pour lui et pour lui seul. De son corps pour qu'il soit le temple du Saint-Esprit. L'huile est le symbole de la vertu guérissante du Saint-Esprit. Ça, c'est Thoret. Alors, qu'est-ce que l'onction ? Ben, l'onction, c'est un acte de consécration par l'huile sainte. En recherchant dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on voit un revêtement d'huile. Qui a un caractère sacré. Rappelez-vous le psaume 133 où l'huile descend sur la barbe d'Aaron, etc., et parle de cette unité des frères, etc. Il y a plusieurs formes d'huile, d'onction, pardon, dans l'Ancien Testament. La première, c'est les sacrificateurs. La deuxième, c'est les rois. La troisième, c'est les prophètes. Et la troisième, c'est les lépreux. C'est la guérison physique. Regardons les sacrificateurs, l'onction des sacrificateurs, des prêtres. L'huile, ils étaient oints d'huile avec une composition particulière, on le verra tout à l'heure. Les rois, c'était juste de l'huile d'olive. Les prophètes, il semblerait que ce soit d'huile avec quelques composants à l'intérieur. Et les lépreux, il y avait l'association entre, donc quand un lépreux était guéri, il y avait pour rétablir son statut dans la société, puisqu'il n'avait plus le droit de venir dans la société, pour le rétablir, il y avait l'onction d'huile. Mais avant l'onction d'huile, il y avait quoi ? Il y avait des sacrifices d'expiation. Vous savez, il y a un but dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de lire et de comprendre tout ce qui est marqué, c'est un peu compliqué, tout ça, il faut avoir un peu une culture théologique derrière. Mais les sacrifices d'expiation, ça préfigurait la venue de Christ, la venue du sacrifice ultime. Et donc, il y avait un sens, et aujourd'hui, il y a un sens aussi. Nous ne pouvons pas guérir si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus. C'est Jésus qui guérit. Amen. Ensuite, le Saint-Esprit confirme et consacre. Alors, regardons d'abord l'onction des sacrificateurs. Cette onction, pour les sacrificateurs, donc ceux qui étaient là pour exercer la prêtrise dans le temple, il y a aussi les souverains sacrificateurs, il y avait encore une autre onction, l'onction de sacrificateur, l'onction de souverain sacrificateur. Donc l'onction du sacrificateur était là dans le but de consacrer les hommes qui servaient au culte rendu à Dieu, qui avait été ordonné par Moïse, à Moïse par l'Éternel. Lorsque nous observons la composition de cette huile, exclusive pour l'onction des sacrificateurs, nous remarquons qu'en plus de l'huile, qui est l'image du Saint-Esprit, sa douceur, vous savez que l'huile c'est doux, ça se met sur les plaies, ça se met, voilà. Et elle a une faculté de pénétrer aussi dans la peau, l'huile. Eh bien, il y avait des aromates. Les aromates qui étaient utilisés avec ce mélange, qui étaient chargés d'une profonde signification spirituelle. Regardons un petit peu. Il y avait la myrrhe. Il y en a qui connaissent la myrrhe, peut-être ceux qui étaient en Israël connaissent tout ça. La myrrhe. La myrrhe, en plus de son parfum, qui était agréable, est mêlée au vin, elle a un pouvoir calmant. Dans Marc, chapitre 15, verset 23, elle faisait partie des aromates qui servaient à embaumer les corps. Le deuxième ingrédient, c'était la cinnamone aromatique. Elle est extraite d'un arbre, le cinnamomum zelianicum, du latin, Michel le prononcerait mieux que moi, de la famille des Laurinées, cultivée à Ceylan, dont elle est originaire. L'écorce de cet arbre fournit une huile essentielle obtenue par distillation. Elle est de la couleur de l'or, une odeur suave qui s'emploie dans l'industrie des parfums. Et c'est pas un choix n'importe lequel que Dieu a fait pour cette composition de l'huile des sacrificateurs. Le troisième ingrédient, c'est un roseau aromatique, un roseau parfumé, et aussi du canette, de la canne, du roseau, indiquant une espèce odorante. Cette plante a l'odeur agréable, dans Sophonie 4.14 on le voit, entrant dans la composition de l'huile d'onction. On s'en servait au moment des sacrifices, et l'on apportait d'un pays très lointain, on le voit dans Jérémie 6, verset 20. Donc vous voyez, il y avait un prix, il fallait chercher très loin pour faire cette huile. Ensuite, il y avait l'huile d'olive, bien sûr, finement concassée. L'huile pure d'olive concassée dans un mortier était la plus fine, selon Exode 27, 20 et 29, 40. On y plaçait les olives écrasées dans une corbeille d'où s'écoulait l'huile vierge, recueillie afin de mettre la pulpe sous le pressoir. Et rappelez-vous que Jésus, dans son agonie à Gethsémané, eh bien le lieu s'appelait le pressoir. Là où Jésus a agonisé, sa sueur est devenue du crumeau de sang, qu'il a agonisé pour nous, pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. Et que c'était devenu une... Et ça, c'est une image qu'il faut garder en tête. Il a subi le pressoir comme l'huile qui est utilisée dans la composition de l'huile des sacrificateurs. Jésus a souffert pour nous. Et c'est pour ça qu'il est devenu le grand prêtre. Celui qui est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Il est l'avocat, celui qui intercède pour chacun de nous. Et qui prend soin de nous. Donc le pressoir. Gethsémané est un mot grec dérivé de l'araméen qui se traduit par pressoir à huile. Tout un symbole derrière. Alors nous pouvons, en réfléchissant au symbolisme de l'huile sacrée et de l'onction sainte, nous faire une idée plus précise dans la façon que le Saint-Esprit communique la nature de Christ. Vous voyez, le Saint-Esprit, sa fonction, c'est de parler de Christ. Il ne dit pas les paroles de lui, mais Jésus a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit et il parlera de moi. » Mais il parle de moi comment? Non pas comme quelqu'un qui tape sur la table, comme quelqu'un qui est énervé, comme quelqu'un... Vous imaginez Dieu qui est énervé contre vous? Alors, c'est vrai que si vous avez eu un père énervé, vous avez du mal à imaginer. Je sais, parce que voilà. Mais il faut l'imaginer, il faut voir. C'est pour ça que c'est important, quand on loue le Seigneur et on chante « Dieu est bon », voyez. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans la louange, parce que quand on le chante, eh bien, toutes nos images négatives que nous avons vécues dans l'enfance naturelle, eh bien, se transforment dans ce qui est la réalité spirituelle, que Dieu est bon. Et voyez-vous, tout le soin qu'il a pris dans cette huile, dans toute cette composition de douceur, de parfum, de choses extraordinaires qui composent la prêtrise et la prêtrise de Jésus-Christ. Une référence concerne l'onction du souverain sacrificateur qui se trouve dans Psaume 133, verset 2. Cette huile précieuse qui est répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron et descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez, c'est pas avec parcimonie, c'est l'huile à grande quantité que Dieu, le Seigneur, utilise. Voyez-vous, c'est très très précieux tout ce qui est dans cette huile et qui lui amène. Eh bien, le Seigneur le met sur nous avec abondance. Nous pouvons nous rendre compte qu'il s'agit pas seulement de quelques gouttes sur le front, mais d'une mesure abondante de sa grâce. C'est une image de l'onction du Saint-Esprit qui est répandue sur ceux qui le reçoivent. Amen. Amen. Il y en a qui veulent plus de l'onction du Saint-Esprit. Alors demandez-le. Moi, pendant 15 ans, j'ai demandé. s'est rien passé parce que mon âme était bloquée, parce que voilà, j'ai reçu une éducation très rationnelle et tout. Et quand je me suis laissé aller, j'ai reçu cette onction extraordinaire. Amen. Il faut se laisser aller dans les bras du Seigneur, dans les bras du Saint-Esprit, pour la recevoir en abondance. Lorsque la bonté de Dieu et son amour ont été manifestés à la croix, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous avons faites. Est-ce que tu étais sauvé à cause de ta justice? Non. On était sauvé par grâce, par la miséricorde, par le baptême de la régénération, comme le dit Tite 3, 4, et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Dis-le à ton voisin, avec abondance. Il a répandu avec abondance. Hein, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur parce qu'il nous a donné en abondance. Alléluia. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous donne en abondance. Amen. Alors, l'onction des rois. Alors, l'onction des rois, elle est différente. Donc, l'huile est différente de l'onction des sacrificateurs. On les oignait d'une manière différente et ce n'était que de l'huile d'olive. Vous voyez ? Il n'y avait pas d'aromate, il n'y avait rien, juste de l'huile d'olive. On le voit dans 1 Samuel 10, 1 Samuel 16, 1 Samuel 13, 1 Roi, chapitre 1, verset 39, 2 Rois, chapitre 9, verset 1. Voilà. Et elle était appelée sainte parce qu'elle était employée au nom de Dieu. Et oui, ça c'est très important aussi, l'huile en elle-même n'a aucun pouvoir. Okay. Donc on est bien dans le symbole. Mais c'est un symbole. C'est pour ça que quand on utilise de l'huile, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Il faut l'utiliser en utilisant le nom de Jésus ou le nom de Dieu. Et pour les rois, c'était le nom de Dieu qui était invoqué parce qu'il y avait cette conscience que le roi devait représenter la justice de Dieu. Alors est-ce qu'ils l'ont fait tous les rois? Malheureusement non. C'est pour ça que les Français sont un peu rebelles à cause de tout ce qui était fait par les rois, qui pourtant se disaient des rois très chrétiens. Mais les rois en Israël n'étaient pas mieux. Les rois français n'étaient pas terribles, mais les rois d'Israël non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul roi qui est juste. C'est qui? C'est Jésus. Amen. Pour ça, on peut invoquer le nom de Jésus. Parce que Jésus, c'est le seul roi qui a été oint par Dieu et qui peut vraiment exercer la justice telle que Dieu l'a prévu. L'onction des prophètes. Une autre onction, c'est l'onction des prophètes. Elle n'est pas générale, on ne le voit pas de manière générale sur tous les prophètes, mais on lit que le prophète Élie a, sur l'ordre de Dieu, oint son serviteur Élisée pour lui succéder. Il faut remarquer qu'Élie s'est servi aussi de son manteau. Donc il y a l'onction par l'huile, mais aussi l'onction par le manteau, puisque voilà, il utilisait le manteau pour revêtir Élisée de manière symbolique. Donc le manteau peut être aussi une manifestation, un symbole de la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on parle du revêtement aussi. Et dans RNC, où on va, dans les textes qu'ils nous ont donnés, ils parlent de ce revêtement, de cette couverture, si vous voulez, apostolique, qu'ils assurent sur nous en tant qu'Église. Donc on a une certaine protection aussi de personnes qui sont consacrées et qui nous accordent leur protection eux-mêmes. Et rappelez-vous, quand ça m'a frappé, Jean-Marc Potentic était venu, il a parlé de certains conflits, bien sûr, en tant que président, il est souvent confronté à des conflits dans les Églises. Mais il dit parfois, les pasteurs disent, ça va pas, il y a des choses qui vont pas dans l'église. Et l'équipe apostolique vient, et le conflit s'arrête tout seul. Comment ça se fait? Est-ce que c'est magique? Non, c'est pas magique. C'est l'autorité. On a parlé tout à l'heure d'autorité. Il y a une autorité, et rappelez-vous que Jésus a loué le centenier pour dire en Israël, je n'ai jamais vu aucun Israélite qui a la foi comme ce centenier. Et le centenier, comment est-ce qu'il avait compris l'autorité? Avec l'armée, c'est tout. L'armée. Vous voyez, comme quoi parfois des choses très simples peuvent faire comprendre les choses spirituelles. Il ne faut pas être trop spirituel, hein. Il faut être très très simple. Et cet homme était très simple, il a dit, Jésus a dit, mais comment ça se fait que tu comprends ça? dit, bah, c'est normal. Moi, dans l'armée, je reçois un ordre, bah, j'obéis. Je donne un ordre, il obéit. Donc ça marche. Bah, oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez ? Donc si on est... Jésus était sous l'autorité de... du Père. Il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Si les disciples que nous sommes, nous faisons ce que, nous... que Jésus nous dit, bah, l'autorité s'exerce et les choses marchent. Hello ? Vous n'avez pas expérimenté ça ? Mais expérimentez-le dans cette semaine qui vient. Écoutez la voix du Saint-Esprit qui vous parle de ce que Jésus a prévu que vous fassiez dans telle circonstance, dans telle situation, que ce soit au travail, dans la relation, dans votre couple, dans votre famille, peu importe. Et faites-le. Et ça marche. Et ça marche, c'est l'autorité qui agit par la foi. Amen. Alors, continuons avec l'onction des lépreux. C'est dans Lévitique, chapitre 14, verset 1er. Ce passage concerne la loi pour la purification du lépreux. Premièrement, les lépreux doivent être purifiés au moyen du sang d'animaux offerts en sacrifice. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi, de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux, etc. Voilà, donc il y a toute cette cérémoniale de la sacrificature. Ensuite, le lépreux guéri devra procéder à un renouvellement de son aspect physique. Il doit s'habiller correctement. C'est une image symbolique de la nouvelle naissance. Il doit purifier ses vêtements. Il doit raser tout son poil. Il doit se baigner dans l'eau. Il devra être pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tout son poil, il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau, et il sera pur. Voyez-vous, il y a aussi une compréhension éthique, une compréhension sociale, hein, dans le rétablissement social. Puis, 2 agneaux seront offerts, l'un en sacrifice de culpabilité, pour l'expiation, et l'autre en holocauste, symbolisant l'offrande à Dieu, du lépreux guéri. Dans Lévitique 14, le sacrificateur prendra du sang de la victime, de la culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite, c'est là, et de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. C'est très précis, hein, c'est l'être tout entier qui est purifié par l'onction. Remarquons qu'avant l'onction d'huile, l'expiation par le sang est indispensable. Avant que le Saint-Esprit descende sur quelqu'un pour le revêtir, ce dernier devra se convertir au Seigneur et être purifié par le sang de Jésus. C'est très important au niveau, en tout cas parler en langue, parce qu'il y a aussi des faux parler en langue. Mais il faut être soumis au Seigneur, être converti au Seigneur. Dans Actes 2, verset 38, il est dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, il y a une séquence. Hein, il faut d'abord se donner au Seigneur pour recevoir. Et Actes 3, 19 aussi, hein, « Repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, etc. » Et le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors regardons l'onction dans le Nouveau Testament. Il y a une continuité, il y a un sens, hein, entre l'Ancien et le Nouveau. Mais dans le Nouveau, il y a à nouveau un symbolisme un petit peu différent. Ce que nous venons de dire de l'onction de l'ancienne alliance concernant le peuple d'Israël sous la loi de Moïse ne peut servir que d'image sur ce qui est de l'Église. Les éléments de la loi de Moïse laissent la place à des réalités. Voyez-vous, on passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de l'image à la réalité. C'est puissant ça. Ils n'ont eu droit qu'à l'image. Le temple, c'était l'image de ce qui est du temple. Dans le ciel. Mais dis à ton voisin, tu es le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, on ne va pas chercher un temple à Jérusalem, on ne va pas chercher un temple physique, ou même celui-là, hein, qui est peuplé temple. Mais le temple, c'est toi, c'est moi. Voyez-vous, donc, on passe de l'image à la réalité. C'est puissant. Hein, voyez-vous, donc, on rentre dans une nouvelle dimension de réalité. On est le temple du Saint-Esprit. Il est intéressant de rappeler que tous ceux qui sont sauvés forment un peuple de sacrificateurs. Amen. Tous ceux qui sont sauvés forment un peuple de sacrificateurs. Et Dieu les a oints par le Saint-Esprit au moment où ils deviennent enfants de Dieu. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 6, voilà ce que Jean, l'apôtre Jean, décrit. « Je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau, qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, les quatre 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Et, très important, on est dans RNC, le royaume de Dieu. Et, Rémi, termine, il y a juste trois mots à rajouter pour terminer le verset. Ils régneront sur la terre. Dis-le à ton voisin, ils régneront, parce que visiblement, vous ne le savez pas. Ils régneront sur la terre. Tu régneras sur la terre. Amen. C'est le rétablissement de toutes choses. Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. Pourquoi ? Pour régner sur la terre. C'est ça l'objectif. Régner. Est-ce que tu règnes ? Est-ce que tu règnes dans ta vie ? Ou est-ce que tu te traînes dans la vie ? Allô ? Demande à ton voisin. Est-ce que tu règnes ou tu traînes ? Tu te traînes. Hein ? Nous ne sommes pas là pour nous traîner. Ah, ça peut durer un petit temps de se traîner. Bon, on est tous là. Hein, voilà. Alors, il y a Michel qui dit ça souvent, mais je crois que c'est emprunté à Joyce Meyer. Hein. Je ne sais pas. Hein, l'origine, c'est toujours... Les blagues sont un peu utilisées les unes aux autres. Très souvent, il y a des chrétiens qui vivent sur la carte de crédit de leur père, de leur mère, de leur comment on appelle ça, soutien spirituel, non ? Parents spirituels, voilà. Mais ayez votre propre carte de crédit. Allez à la banque, demandez, elle vous délivre une carte de crédit à vous et tirez sur votre carte de crédit, vous voyez ? Non, le christianisme est individuel. Que vous fassiez traîner un petit peu par quelqu'un qui a une carte de crédit et qui est bien remplie, c'est bien. Hein, mais ça ne fait pas de vous des chrétiens qui règnent sur la terre. Hein. Récemment encore, on a parlé avec quelqu'un qui malheureusement a dû divorcer parce que son mari, eh ben, il voyait sa maman toutes les semaines. Il devait tout raconter, y compris ce qui se passe dans son lit. Hein. Voilà. Non, mais vous voyez, quand vous en arrivez à ce point-là, qu'est-ce que vous voulez régner sur la terre, quoi ? Ah, c'est la maman qui règne. La maman qui règne sur le petit-fils, et le fils qui est marié, la femme, elle épousait un enfant. Vous voyez ? C'est pas régner, ça. C'est traîner, se traîner derrière sa mère, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Hein ? Une catastrophe, surtout pour un homme, quoi. Un homme, ça s'appelle un vir, viril. Viril, ça veut dire un homme. Soyez viril, même les femmes, soyez viril. Hein ? La virilité, c'est pas spécifiquement masculin. C'est d'être un homme. C'est de régner dans la vie. Alors ? Je vous choque, non ? Je vous choque ? Non ? Non ? La virilité, bon, c'est vrai que c'est utilisé pour dire homme, virilité. Mais nous avons tous besoin d'être virils, y compris les femmes. Hein. Parfois, elles sont trop. Hein. Potomitant, hein. La virilité de l'autre côté. Hein. Et là, on retombe dans notre excès. Vous voyez, il y a toujours des excès. Hein. Mais l'excès, c'est pas ce que Dieu a fait. C'est ce que les hommes en font, parce qu'ils ne suivent pas la voie de la sagesse de Dieu. Alors revenons à notre onction. 1 Jean, chapitre 2, verset 20. « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » Ne cherchons pas de connaissance. Ne suivons pas des gens qui disent « Voilà, je vais vous apprendre des choses de la connaissance. » Ça, c'est les gnostiques. qui sont sur la connaissance. Mais en fait, ils vous apprennent des choses secrètes qui vous font complètement basculer dans le monde des ténèbres. Mais la connaissance, c'est la connaissance de Jésus-Christ, la relation avec le Seigneur Jésus, amen, par l'onction du Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 21, verset 22, « Celui qui vous affermit avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts, c'est-à-dire les prémices, ce qui va être notre héritage futur, les arts de l'Esprit. Cette onction est un sceau qui marque l'appartenance au peuple des rachetés et se traduit par la présence du Saint-Esprit en eux. Il est accordé à tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Dans Romains, chapitre 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Voyez-vous, l'appartenance à Dieu, on parlait de la nouvelle naissance, c'est d'appartenir à Dieu par le Saint-Esprit. Alors l'onction pour le ministère apostolique, on en parlait tout à l'heure du RNC, c'est l'onction du service. Un autre type d'onction, onction de service. Il s'agit d'une onction, le revêtement du Saint-Esprit, qui donne la force et la capacité de remplir un ministère, un service. Elle est essentiellement spirituelle. Nous en trouvons une parfaite définition quand Jésus affirme qu'il est oint du Saint-Esprit, envoyé pour remplir son ministère. Dans Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. » Jésus était oint pour annoncer. Avant d'annoncer, il a reçu le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous devons recevoir le Saint-Esprit pour oint. C'est pour ça que nous, pentecôtistes, en fait, bien sûr, on est décrié de cette théologie par les évangéliques libres, de dire qu'il y a une deuxième expérience. Ce n'est pas vraiment une deuxième expérience, encore que si. Il n'y a qu'une expérience de salut. C'est le salut par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. On peut recevoir tout de suite l'action du Saint-Esprit pour parler en langue, ou on peut la recevoir en décalé, comme ça a été mon cas. J'ai eu d'autres onctions qui étaient plus fortes même que le parler en langue, que j'ai reçues avant, bon, parce qu'il n'y avait pas cette peur, cette crainte hein, qui m'habitait. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a besoin d'une onction pour le service, en tout cas, pour servir le Seigneur. Parce que il y en a qui ont entendu Nicky Cruz. Vous avez vu que Nicky Cruz, hein, il a bien expliqué que quand David Quikerson a dit « Bon, mais maintenant, on va faire l'offrande. Hein, » L'offrande, alors qu'il y avait 300 chefs de gang, enfin des gangs, hein, des chefs de gang qui étaient dans la salle. Il a dit « On va faire l'offrande. » L'offrande. Ok, alors les momos, il dit « Allez les momos, vous allez faire les offrandes. » Et Nicky Cruz a dit « Attends, ça va pas, hein, c'est moi le chef ici à New York. » Donc, comme il disait, il avait son revolver qui était là. Hein, et puis, il faisait l'offrande comme ça. Voyez, et il dit « Mais, mets de l'argent dedans !» Et les enfants, toutes les corbeilles étaient remplies. Hein, il n'y avait pas de problème. Toutes les corbeilles, c'est des corbeilles hautes comme ça. Tout était rempli. Hein, parce qu'il voyait le pistolet et qu'il y avait intérêt à donner. Hein, voilà. Mais à la fin, il a dit « On va le donner au prédicateur. » Donc c'était un premier coup. Hein. Mais il fallait le faire. Hein. Vous auriez fait, vous, à la place d'Avec Gerson, de dire « Ça y est, on va faire l'offrande devant 300 gangsters qui étaient là. » Bon, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, après, est descendu. Et il a convaincu de péché, de justice, du moment. Il était incapable de le faire. Il aurait été complètement écrabouillé comme une limace. Hein. Vous voyez, donc quand vous rentrez dans le ministère, il ne faut pas se tromper. Hein. Il faut être appelé pour le faire. Hein. On ne peut pas s'improviser comme ça dans un ministère. Hein. Ceci étant, tout le monde a un ministère. Hein. Ce n'est pas les mêmes ministères, mais tous ont un ministère. Hein. Mais il ne faut pas, il faut que chacun, la Bible dit que chacun soit à sa place. Et là, les choses peuvent bien marcher dans une église. Que chacun connaît son ministère. Tu connais ton ministère? Si tu ne le connais pas, cherche-le. Tu as un ministère. Tous, on est appelés au service. Du moment qu'on a reçu l'onction, le sacrificateur, ils ont reçu l'onction pour servir. Donc on a tous un ministère, qu'il soit dans l'église, en dehors de l'église, peu importe. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la prédication ce matin. On peut affirmer que lorsque le Saint-Esprit choisit, appelle et établit une personne pour un ministère, il le revêt de sa force, il le oint pour le service. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Je sais qu'un cher frère qui nous a aidés à sortir des problèmes de l'Église, à un moment donné, tous les lundis matins, j'avais une liste comme ça, ce que je devais faire pour améliorer l'Église. Bon, on était dans une période d'amélioration. Hein. Mais à un moment donné, il ne s'arrêtait plus. Et puis avec Michel, il a dit, attends, la liste, on n'y arrive plus là, il faut... Il faut plus que 24 heures par jour pour faire tout ça. On dit, attends, arrête, frère, là, laisse-nous un peu au bout de quelques mois. Il a dit, mais tu as l'onction ? Alors vas-y. Je dis, oui, d'accord, mais attends, je suis humain aussi. Hein. Donc il y a des limites. Hein. Voilà, on a aussi nos limites, même si effectivement on a l'onction. Mais voilà, on a tous reçu l'onction. Jésus est celui qui est le chef et la tête. Et Jésus fut oint de toute la plénitude de Dieu. Parce que comme il est chef, comme il est la tête, c'est lui qui nous conduit. C'est lui qui dirige toute l'Église. Toute son Église. Donc effectivement, il a été revêtu d'une onction puissante parce qu'il est le chef. Jésus fut oint de toute la plénitude du Saint-Esprit. Et nous pouvons facilement comprendre pourquoi il est le seul qui ait cet attribut dans Ésaïe 61, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint ». C'est-à-dire il s'est attribué cette parole d'Ésaïe 61 quand il a lu dans la synagogue. Voilà, le jour est arrivé où le Messie, loin de Dieu, est venu. Amen. Lui, c'était le seul qui pouvait le dire. Et il l'a fait au moment où il est entré dans le monde pour accomplir les miracles, les prodiges qu'on connaît de sa part. Amen. On va prier un instant pour que le Seigneur nous aide à réaliser cette onction de l'Esprit qui accompagne la parole, qui convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Que nous puissions vraiment honorer cette présence de Dieu en nous et que nous puissions aussi honorer la parole parce que les deux ne font qu'un.